Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h05 de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025, encore belle et heureuse année. On pense à vous, on pense à vos proches évidemment. Et si vous êtes sur la route de retour de vacances, faites très attention à vous et nous sommes là pour vous accompagner toute la matinée avec Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Fred Weiss. On va vous parler de tennis de table dans quelques instants. Une crise polémique dans le monde du ping. 10h30, la punchline signée cette semaine. Antoine Camboire, qui se paye les journalistes après son vrai faux limogeage, a-t-il raison d'en vouloir à la presse? Ce sera notre question. Et puis 10h45, les vœux des GG pour cette année 2025. Chaque grande gueule va nous dévoiler ce qu'elle souhaite par-dessus tout pour cette nouvelle année. Évidemment, je veux un vœu sportif. Hein, votre vie et tout ça, bon là, on
pas
passera.
Une augmentation,
quoi.
Tout ça, on peut
j'en ai rajouté un.
C'est un vœu sportif, si tu l'attends.
Ça sera très court, mais j'en ai rajouté un.
T'as rajouté un autre vœu? D'accord. On veut pas 50 vœux à la fois, on en veut un. Les copains, et oui, tu peux demander une augmentation, même si évidemment on sait que ça n'arrivera pas.
En fait, tu viens de passer en dernier parce que je pense qu'il va prendre beaucoup de temps d'antenne. Il peut passer en dernier par rapport au vœu.
Oui. Et comme ça, on le réduira à 10 secondes.
Exactement.
Tu as bien raison. Allez, on débute cette nouvelle heure avec cette citation de Sacha Guitry qui a dit un jour: se séparer, ce n'est pas quitter quelqu'un, c'est se quitter tous les deux.
RMC, le bras de fer GG.
Aïe. Et c'est là qu'on voit l'expérience du numéro 1 mondial et du top niveau.
Pas content.
Je m'en vais.
Le tennis de table connaît sa première grande crise. Deux légendes chinoises du ping ont décidé de claquer la porte du prestigieux circuit professionnel, la WTT, créée en 2019. Celui-là même, ce circuit où évoluent les frères Lebrun. En gros, c'est comme si Novak Djokovic et Yannick Sinner décidaient de fuir le circuit ATP. La raison: des nouvelles règles qui sanctionnent financièrement les joueurs s'ils ne participent pas aux compétitions du circuit de la Fédération internationale. L'argument de la WTT: s'assurer d'avoir les plus grandes stars lors de ces événements. Des amendes en cas de forfait. Est-ce que vous êtes pour ou contre mes GG? Dans le coin gauche, la team pour les amendes.
Enfin, pour.
Pour les amendes. Fred Weiss, Christophe Cessieux. Ne vous connaissez pas sous cet angle-là.
Non.
Ils sont pour les amendes. Ils sont contre, farouchement contre les amendes. David Douillet, Julien Beneteau, c'est un 2 contre 2. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste du ping. C'est Léna Marjac que l'on retrouve. Bonjour Léna, rebonjour.
Rebonjour.
C'est elle qui va nous mettre à l'amende.
On va voir ça. Le bras de fer est donc engagé, je le disais, entre les meilleurs joueurs du monde et la WTT.
Oui, on est alors peut-être en train de vivre une révolution dans le monde du ping, une révolution d'ailleurs initiée par les plus grands joueurs. Alors, il y a une semaine, sur son compte Weibo, le réseau social chinois, Fan Zhendong, 27 ans, triple champion olympique et 9 fois champion du monde, a annoncé quitter le circuit WTT. Si je respecte cette organisation internationale, je ne peux que décider de quitter le classement mondial. Une annonce suivie par Chen Meng, championne olympique à Paris cet été. Elle est tout simplement épuisé par le rythme effréné du calendrier, et également suivi par le plus grand joueur de l'histoire, Ma Long, 6 fois champion olympique, 15 fois champion du monde. Alors, il n'y a pas eu d'annonce publique de sa part, mais simplement une disparition soudaine du classement mondial. Alors, la raison de ces 3 retraits, c'est de payer une amende en cas de non-participation à une compétition, une amende qui peut monter jusqu'à 5 000 €. Et ce tremblement de terre a évidemment fait réagir déjà la WTT par un communiqué de presse. Selon elle, ces règles ne sont pas nouvelles. Je cite, elles permettent de garantir la présence des meilleurs joueurs, de préserver l'intégrité de la compétition mondiale et d'offrir des événements de la plus haute qualité aux joueurs, aux fans et à tous les partenaires. Et sachez que ça met également en colère d'autres pongistes. Nos pongistes français soutiennent la protestation des joueurs chinois, notamment Félix et Alexis Lebrun et Simon Gauzy, qui a été le plus virulent. Ils demandent tout simplement des changements dans le règlement de la WTT. Et cette fronde des pongistes commence à être entendue parce que hier, la Fédération internationale a lancé un bureau de travail pour recueillir les commentaires des joueurs et revoir les réglementations existantes. De premières annonces devraient être faites fin janvier à l'issue du premier gros tournoi de la saison qui a lieu à Singapour.
Quand on annonce un bureau de travail, attention, ça va fumer fort. Il va y avoir beaucoup de réflexions. Donc dans ce bureau de travail, c'est c'est très officiel. Merci beaucoup Léna Marjac pour toutes ces précisions. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce système d'amende en cas de forfait? Je le disais, c'est un 2 contre 2 pour l'instant. Eh bien, vous êtes contre à 67% pour, 33%. Fred Weiss, Christophe Cessieux, vous avez du boulot. Fred, pourquoi pour?
Ben, je suis pour, tout simplement parce qu'ils sont dans leur rôle, je trouve, la WTT, parce que eux, ils doivent protéger un modèle économique, ils doivent protéger les spectateurs qui vont se déplacer pour voir les matchs. Nous, on a à peu près la même chose en NBA maintenant. Quand les équipes NBA n'alignent pas leurs stars sur les matchs, les clubs prennent des amendes parce qu'encore une fois, il y a un spectacle à protéger, il y a une réalité économique et qu'on veut pas décevoir le fan qui risque de se déplacer pour ne pas voir les stars qu'il a envie de voir. Donc à un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et autre chose de la crémière. C'est pas possible. On peut pas tout avoir. Après, que les joueurs soient dans leur rôle aussi en disant, on veut se protéger, on veut faire le moins de compétitions possible. Mais si c'est pour aller pour, dans d'autres compétitions, juste pour prendre un billet, bah non. À un moment, je trouve que ça, la WTT a fait un travail exceptionnel pour remettre le tennis de table, ping, comme on dit, sur le devant de la scène. Ça intéresse à peu près tout le monde maintenant. Bah c'est peut-être grâce à au fait qu'ils aient travaillé leurs produits et que leurs produits soient de qualité. Donc dégrader ce produit, c'est négatif pour eux. De ce fait, ils mettent des amendes.
Et puis c'est le cas dans tous les autres sports. Je pense que à l'ATP, si tu disputes pas un certain nombre de tournois et notamment les Master 1000 ou les Grands Chelem, eh ben tu prends une amende. Et vous imaginez, tu prends pas l'amende, tu prends des points de.
Oui, c'est une sanction sportive, mais c'est pas une sanction financière. C'est pour ça que je suis contre.
Et puis.
Au contraire, au lieu de retirer, qu'est-ce qu'ils font si les joueurs jouent tout, ils mettent des bonus. Donc eux, ils ont pris le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'à l'ATP, si les meilleurs joueurs
toi, t'avais pas d'amende quand tu
c'est moi j'ai lu. Si tu te retires au dernier moment, oui, là tu peux avoir une amende. Mais en Masters 1000, tu dois jouer un certain nombre de Masters 1000. Si tu les joues pas, t'as des sanctions sportives. C'est-à-dire que tu prends un zéro.
Et t'as pas de sanctions financières.
Non.
Attaquer le portefeuille, c'est peut-être la meilleure solution pour s'assurer justement la présence de ces stars
et vous imaginez, vous, par exemple, sur le circuit de Formule 1 de la saison, un mec dire, mais j'ai pas envie d'aller en Australie, c'est trop loin, ça me fatigue. Donc, Ferrari, prenez un autre pilote. Mais dans tous les sports, c'est comme ça. Les meilleurs font partie d'un système où ils gagnent bien leur vie. Alors, c'est peut-être pas le cas en ping-pong.
Et
c'est peut-être là que le bas
baisse. Même si ça a progressé aussi.
C'est peut-être là que le bas baisse. Mais dans tous les autres sports majeurs où tu prends des prize money incroyables quand tu gagnes, eh bien, t'es obligé de faire acte de présence. Autrement, effectivement, les diffuseurs n'en ont pas pour leur argent et ne vont plus payer pour avoir les compétitions. Et c'est ce qui peut se passer en tennis de table. Mais à la condition, évidemment, de rétribuer de manière conséquente les athlètes quand ils participent aux compétitions.
Ouais. Par exemple, je vous donne, et on poursuit la discussion avec David Douillet, Julien Beneteau dans quelques instants, qui sont contre vous les copains, et on accueillera aussi un pongiste français, c'est Emmanuel Lebesson, qui a été champion d'Europe en 2016 et qui viendra nous donner son point de vue. Par exemple, l'un des derniers tournois remportés par l'un des frères Lebrun, il a remporté $30,000, mais il faut aussi payer, payer son staff, il faut aussi payer son déplacement, bref.
Et payer ses chambres d'hôtel qu'on t'impose. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller louer à Airbnb avec des copains.
Donc, c'est déjà pas incroyable, mais il gagne $30,000. Mais s'il ne participe pas à un tournoi, quand on est un joueur classé entre le premier rang et le dixième rang, c'est $5,000 d'amende si on fait forfait dans un tournoi. Donc, $5,000 si vous venez d'en gagner $30,000 le tournoi d'avant. Vous pouvez imaginer que c'est quand même une somme assez conséquente. Si vous êtes classé entre la 11e et le 20e rang mondial, c'est $2,500. Voilà pour quelques
amendes. C'est extrêmement punitif, ça c'est clair. Et je suis pas d'accord sur
le niveau de salaire, c'est punitif.
Je trouve que la proportion elle est pas du tout respectée. Et de ce point de vue-là, on pourrait en discuter. Mais encore une fois, la discussion se porte sur le fait de mettre des amendes ou pas. Moi, pour moi, il faut mettre des amendes. Mais après, il faut qu'elles soient proportionnelles à ce qu'ils gagnent aussi. Parce que sinon, ça n'a aucun sens.
Ok, c'est d'ailleurs pour ça que les légendes chinoises sont parties, parce qu'elles considéraient que ces amendes étaient beaucoup trop onéreuses
et qu'en fait,
ils se faisaient trop taper au portefeuille. Oui, David, pourquoi contre ?
Moi, ça n'a pas de sens. Je veux dire que fliquer, etc., etc. Enfin, ok, je comprends le modèle économique, ils baignent dedans, etc., et tout le monde en profite, etc. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui ne participe pas et qui ne rentre plus en jeu parce qu'il est exténué, parce que c'est le cas, c'est les arguments que j'ai entendus, le rythme des compétitions est trop élevé, etc.
Oui, faut... parfois ils font des exhibitions aussi, David, qui leur apportent beaucoup d'argent et qui les fatiguent aussi. Donc à un moment, tu peux pas tout avoir. On fait des exhibitions. Les exhibitions fonctionnent pourquoi ?
J'ai compris, Fred.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait des exhibitions.
Oui, j'ai compris.
Quand t'es très bien classé,
merci, Fred. Forcément. C'est gentil d'avoir précisé.
Mais oui, mais j'ai besoin de préciser parfois parce que David, tu n'écoutes pas toujours. C'est ça.
Si, je te jure, je suis assez. J'ai que ça à faire. J'écoute. Je te jure, j'écoute. Non, mais les athlètes se pénalisent d'eux-mêmes. Ils se pénalisent d'eux-mêmes parce que ils savent que tout au long de l'année, ils ont leur machine à gagner de l'argent, qui est la plus récurrente. Tu as raison de dire qu'ils peuvent être attirés par une herbe plus verte à côté, mais c'est des one shot, tu vois. À moins qu'il y ait une deuxième ligue qui est en train de se construire et qui va commencer à aspirer tous les talents de leur côté. Mais là, c'est la loi du marché qui va prévaloir. Mais c'est pas en condamnant, en mettant des amendes aux athlètes, que cette ligue, la WTT, va pouvoir se protéger d'une éventuelle concurrence. Bien au contraire. C'est pour ça que je trouve que c'est absurde, en réalité. Et je pense que la solution de Julien, qui est d'apporter des points de bonus, ou peut-être même de bonifier les choses si les athlètes font X tournois, ou X participation, ou de valoriser une espèce de fidélité à l'engagement dans le système me paraît beaucoup plus humain. C'est une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus saine, mais pas fliquée. Surtout qu'ils gagnent 30 000 balles, $5 000, etc. Enfin, tu vois, c'est les choses sont, et c'est normal que le système craque. C'est logique que le système craque. Donc moi, les amendes, je suis contre. Quand il y a des agressions, quand il y a des gens qui
des mauvais comportements,
des mauvais comportements, etc. Ouais. Ça je comprends, ça je peux comprendre. Mais alors, parce que tu participes pas, tu chopes une amende parce que tu concours pas au système, etc. etc. Non.
Je parlerai dans quelques instants du calendrier et des calendriers surchargés. C'était un débat que l'on a souvent fait dans cette émission. Vas-y.
J'allais y venir.
Et après, on accueille Emmanuel Lebes.
Pourquoi moi, je suis contre le système des amendes? Déjà, le tennis de table, c'est comme le tennis. Ce sont des sportifs indépendants. C'est un sport individuel. Ils sont indépendants. Ils ne sont pas salariés d'une franchise, d'un club. Ils n'appartiennent pas à une ligue, etc. Ils jouent. Peut-être qu'ils signent un truc comme nous, on fait à l'ATP en début d'année. On signe comme quoi on s'engage avec le circuit à l'ATP. Mais déjà, ils sont indépendants. Donc, ils sont maîtres de choisir leur calendrier. Quand t'es indépendant, tu décides d'aller gagner de l'argent ou de pas aller en gagner.
Pas quand tu viens dans une compétition. Bah, pas du tout, Julien. Je peux pas te laisser dire ça. Oui, toi, t'es maître de ta vie, mais quand la compétition que tu veux pratiquer a des règles, tu es obligé de respecter les règles. C'est comme tu disais, moi, je joue juste sur un set.
Je connais pas le niveau d'engagement qu'ils ont vis-à-vis de WTT.
J'imagine
que tu t'engages, mais ça dépend comment sont édictées les règles et leur bureau de travail, là. En fait, ça aurait dû être fait avant, ça.
Ça, oui.
Que ça doit être fait avant. Ça doit être fait en accord avec, entre guillemets, les athlètes sur le calendrier. Combien de tournois minimum à jouer, etc. Là où je te rejoins, Fred, c'est effectivement, c'est parce qu'on a la même problématique au tennis. Calendrier surchargé, etc. Et en même temps, à côté, ils vont faire des exhibitions en Arabie Saoudite entre Shanghai et le Masters de Bercy, etc. Si les Chinois font pareil, ça, c'est inaudible. C'est-à-dire que là, les athlètes deviennent inaudibles quand ils parlent de calendrier surchargé, quand ils vont contre les compétitions officielles, jouer des exhibitions pour l'argent.
Carlos Alcaraz est devenu inaudible, parce qu'il a déclaré.
Complètement.
Il a déclaré que c'était inhumain ce qu'on faisait au tennisman et il allait faire des exhibitions à côté.
Exactement. Là-dessus, c'est le cas. Après, attention, le WTT, je pense que pour l'instant, le circuit, il n'est pas aussi fort, il n'est pas assez fort.
Il n'est pas aussi mûr que l'ATP.
Il est jeune, il a été créé en 2019, il a été mis en application en 2021.
Ouais, c'est le Covid, en fait, c'est tout nouveau.
C'est pour ça, il faut qu'ils construisent bien leur truc. Aujourd'hui, le ping-pong, le tennis de table, c'est quoi les épreuves majeures? Ce sont les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Les World Smash et compagnie, là, l'équivalent des grands chelems, ça n'a pas la même résonance que s'ils gagnent les championnats du monde ou qu'ils gagnent les Jeux Olympiques. Donc, il faut qu'ils créent un circuit avec un classement mondial qui va permettre de qualifier. Si tu joues pas, t'es pas bien classé, tu peux pas te qualifier pour ces épreuves-là. C'est comme nous, les grands chelems représentent le Graal. Si on joue pas à l'ATP, on n'est pas bien classé au circuit ATP, on peut pas jouer les grands chelems. Donc c'est tout un système et un circuit à vraiment bien penser pour le mettre en place.
Notre invité, Emmanuel Lebesson, pongiste français champion d'Europe en 2016, notamment, et notre invité ce matin pour parler justement de cette crise qui traverse et que connaît le monde du ping. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous, bonjour les gars.
Merci bonjour. D'être avec bonjour. Nous Emmanuel. Première question déjà, même si je connais un petit peu la réponse, est-ce que tu es pour ou contre ce système d'amende ?
Ouais, forcément contre le système d'amende. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout pour les meilleurs. Alors on va m'en dire qu'un mec qui est dans le top 10, qui aujourd'hui gagne très très bien sa vie, parce qu'on parle... On parle forcément des Chinois. Les Chinois, pour eux, ils ont leur ligue en décembre qui dure un mois, leur championnat, et ils prennent au moins $1 million sur ce mois-là. Donc pour des mecs comme Fan Zhengdong, je pense que $5,000, c'est pas forcément le problème. Je pense que ça a été un argument pour pousser un vrai coup de gueule contre ce système qui est aujourd'hui extrêmement répressif pour les joueurs. Moi, je peux en parler, je l'ai vécu très peu de temps, je l'ai vécu pendant 3 ans, mais on parle souvent des 10 meilleurs joueurs du monde, mais tous les gens qui sont derrière, je parle entre la 30e, même enfin 20e jusqu'à la 100e place, ils subissent énormément ce système. Et quand vous allez faire un tournoi et que vous engagez au minimum pour un petit tournoi en Europe entre 1000 et 1500 euros pour 5-6 jours, et que pour le vainqueur, donc je parle là des feeders, donc c'est-à-dire le niveau challenger, en termes de price money, si vous gagnez, vous gagnez $1,500, donc vous vous remboursez à peine si vous gagnez le tournoi. Je pense qu'il y a aujourd'hui un réel problème. La WTT avait vendu un système avec un price money beaucoup plus important. Ils mettent des amendes qui sont disproportionnées et par rapport aujourd'hui au price money. Je pense que Julien l'a très bien dit, on est un système qui est très jeune et surtout très différent du... Enfin, ils ont voulu faire le même système que le tennis, sauf qu'il y a 10 fois moins de moyens que le tennis. Donc,
aujourd'hui, Emmanuel, avec l'instauration de ce WTT, de ce système, vous gagnez moins d'argent, même les meilleurs gagnent moins d'argent qu'avant 2019.
Bah, avant, non, je pense que c'est un petit peu plus, mais pas de là à pouvoir se permettre de plus pouvoir jouer en club. Donc, quand on parlait de calendrier surchargé, il y a aussi les clubs qui sont derrière. Les personnes entre 10 et 20, je parle de Simon Gauzy, que je connais très bien, ne peut pas se permettre de ne pas jouer en club. Quelqu'un comme Calderano, qui est aujourd'hui dans le top 10, pourrait presque se permettre de faire que le WTT, mais même ça suffit pas.
Je rappelle justement pour tous ceux qui nous écoutent, Emmanuel, et qui ne sont pas au fait de tous ces tournois, il y a circuit WTT, mais ce n'est pas le seul. Et par exemple, les frères Lebrun ou Simon Gauzy, ils jouent ailleurs et sur le circuit WTT. En 2024, il y a eu 23 tournois. Alors il y a les contenders, les star contenders, les champions ou encore les grands matchs qui sont l'équivalent des grands chelems. Mais donc il y a évidemment ce circuit premium, mais évidemment les joueurs pour accumuler un peu plus d'argent aussi et avoir d'autres performances ont d'autres tournois à les disputer, et c'est pour ça qu'ils veulent parfois faire forfait sur ce genre de tournoi de la WTT.
Les tournois que dit Jean-Christophe, enfin c'est plutôt des matchs, alors peut-être la Ligue chinoise, il y a une compétition individuelle, mais en Europe c'est des matchs interclub, c'est-à-dire que c'est des compétitions par équipe. Il n'y a pas un autre circuit individuel qui fait concurrence à ça, c'est ça que je veux dire.
Non, aujourd'hui, voilà. La seule chose qui va arriver, je pense, c'est comme en tennis, l'Arabie Saoudite est en train de gagner beaucoup de marchés et beaucoup d'exhibitions se font là-bas. Je sais qu'il y a eu des grosses propositions. Moi, je sais que sur une fille que je suivais, qui était top 10 pendant un temps, là, juste avant les Jeux, a une proposition à peu près à $40,000 pour aller faire un week-end en Arabie Saoudite. Donc, c'est en train de gagner beaucoup de place, mais voilà, moi le principal problème au-delà de ça, vous parliez de sanctions financières, mais c'est surtout que c'est un zéro pointé sur un des 8 meilleurs tournois de la saison, et ça c'est un énorme problème pour les joueurs. Au-delà de la sanction financière, nous c'est la différence, c'est qu'on prend en compte les 8 meilleurs tournois de la saison, et quand vous faites forfait sur un grand chelem ou un champions, donc qui est l'équivalent d'un master 1000 en tennis, vous prenez un zéro sur la saison. Donc pour votre classement mondial, vous serez noté que sur 7 tournois au lieu de 8. Donc c'est catastrophique aussi, c'est la double sanction, la sanction financière et la sanction aussi au niveau des points.
Mais la sanction sportive, on peut l'entendre, c'est-à-dire que si on est forfait, forcément on cumule pas de points.
C'est le coup. Ouais, mais après excusez-moi, j'interromps juste deux secondes, mais c'est juste aussi que on en arrive aussi à certaines aberrations, c'est que même certains mecs blessés parce qu'il faut justifier d'une vraie blessure. Certains mecs un tout petit peu blessés arrivent, et je pense que pour le spectacle aussi, pour les fans, je pense pas que ça soit quelque chose de super.
Il y a d'autres questions avec Emmanuel, Emmanuel Le Besson pour Juste Français.
J'ai une question pour toi. Est-ce que tu l'as dit, hein, c'est un système qui est neuf, la WTT, ça travaille progressivement, mais est-ce que tu peux entendre que l'expérience fan doit maintenant déjà être bonne, et donc ils veulent s'assurer que à chaque tournoi on est les meilleurs pour que justement ça continue à progresser, ça continue à avancer, et que peut-être qu'ils le font pas bien, et peut-être qu'encore une fois ce qu'on demande c'est disproportionné, mais est-ce que tu peux entendre que la volonté de grandir elle passe forcément par là, obliger les meilleurs à être à chaque tournoi pour que les fans quand ils se déplacent, ils se déplacent pas pour rien en fait.
Non mais ça je suis d'accord, et peut-être pour aller dans ton sens, la seule chose que je suis, c'est que il faudrait peut-être dans le règlement peut-être imposer, je sais pas comment ça se passe, Julien pourra me répondre, est-ce qu'il y a un ou deux jokers en tennis pour un Master 1000 pour le top 10, je sais pas, mais peut-être avoir un joker dans la saison, et bien sûr qu'après s'il y a de l'abus, s'il y a deux jokers, parce que les comme tu dis, les mecs ont quand même une capacité de pouvoir faire un nombre de compétitions, les 8 tournois tu les trouves facilement, c'est-à-dire que t'as les, maintenant aujourd'hui c'est bien installé, c'était pas le cas au début, ils ont pas réussi à mettre 4 grands chelems avec le contexte économique qu'on connaît, mais là il y a maintenant, il y a 4 grands chelems qui va y avoir, il va y avoir 4 grands chelems l'année prochaine, il va y avoir 6 champions, il va y avoir ensuite 6 star contenders, donc l'équivalent d'un 500 en tennis, il y a une offre de 16 tournois à peu près pour les meilleurs au minimum, même si après ils peuvent en faire d'autres, qui est largement suffisante pour pouvoir mettre les 8 tournois, et donc qui se concentrent ensuite sur les 4 grands chelems et sur 6 champions, donc 5 champions, ça leur fait au minimum 9 tournois plus les championnats du monde qui comptent aussi comme un tournoi important et une compétition continentale. Je pense que l'offre, l'histoire du calendrier surchargé pour les meilleurs, elle peut être valide que si tu joues tout et que tu as besoin d'aller chercher des points partout. Sur le top 10, je pense que le calendrier surchargé est un petit peu moins important.
C'est comme tennis.
Je parle sur les meilleurs chinois. Alors après, nous, c'est juste en termes économiques ou avec l'enchaînement des matchs interclubs, c'est compliqué souvent,
Julien, je te redonne la main, et ça concerne ton sport, on s'aperçoit qu'il y a un grand problème entre l'organisation et les joueurs, et les réflexions entre les deux. Ça s'est passé dans le tennis, mais ça se passe aussi en foot, où il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent des calendriers surchargés. On sent qu'entre les deux, il n'y a pas de communication. Et que le ping,
c'est la même chose.
Et que le ping n'est pas épargné par ça. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions, et après, il y a les meilleurs joueurs qui peuvent quitter la scène. Et là, quand ça se passe au ping, et que ce sont deux légendes chinoises qui quittent la scène, bah forcément, on revient peut-être à la table des négociations.
Bah oui, parce que c'est ce que j'allais dire. La grande différence avec les autres sports, et le tennis, la Formule 1 et le foot, évidemment, c'est que les instances qui dirigent ces sports et les compétitions de ces sports font en sorte que quand même les athlètes gagnent énormément d'argent via leur circuit. Les pilotes de Formule 1, avec, on n'en parle même pas. Les joueurs de tennis sur le circuit ATP, les prize money ont considérablement augmenté dans tous les tournois et les tournois du Grand Chelem. Donc du coup, l'argent fait avaler entre guillemets beaucoup de choses aux athlètes et aux joueurs. Aujourd'hui, le WTT, il faut qu'ils composent avec ce qui est fait historiquement dans le ping. Ce sont les interclubs. Les interclubs en Europe, parce que c'est une manne financière pour les joueurs, et cette fameuse ligue chinoise. Parce que ils ont un autre problème, le WTT et le ping. C'est que la Chine, à elle-même, elle est très, 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 très puissante. Et que s'ils n'ont pas les meilleurs chinois sur leur circuit, même les performances sportives des autres, si les Lebrun gagnent un WTT incroyable, s'il n'y a pas les chinois, à terme, on va se dire, tiens, ça va être dévalorisé, ça va pas avoir la même saveur.
Donc ils n'ont pas le choix que de revenir à la table des négociations. Bah, l'organisation n'est pas assez forte aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'organisation
par rapport aux joueurs.
Non, mais exactement. C'est très bien, au contraire, que les joueurs arrivent sur la table des négociations, ouais, et qu'ils parlent de leur truc.
Il faut qu'ils le fassent.
Hyper important.
En co-construction.
Ok. Bon, remercie Emmanuel Le Besson d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci
de
à vous,
nous avoir éclairé sur ce débat. Tu es désormais parti sur le circuit américain. Tout se passe bien, juste pour toi, quand même, une petite question personnelle.
Ouais, 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 tout se passe bien. Je suis en reconversion. Je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur, donc ça va dans le bon sens, et l'objectif est d'arriver à terme à suivre les meilleurs sur le circuit mondial, et voilà, c'est une nouvelle vie, mais voilà, content aussi d'avoir terminé aussi, parce que c'est bien aussi de passer à autre chose.
Bon, bah on te souhaite beaucoup de bonheur hein, dans cette future carrière donc d'entraîneur, et belle année à toi. Merci beaucoup Emmanuel Lebesson. La consultation vient de se terminer. Sachez que vous êtes contre désormais à 68%. Vous étiez à 67%, c'est désormais 68%. Bravo Julien Beneteau et David Douillet pour cette victoire sublime, magnifique.
10 heures. Emmanuel Lebesson, ils ont eu un allié incroyable. Sans lui, ce serait fait écraser, évidemment, les deux.
10h29, on se retrouve des GG, dans les quelques instants. On va vous parler d'Antoine Camboiré et de cette sortie médiatique hallucinante. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
10h34, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Fred Weiss. Dans 10 minutes, les vœux des GG, les vœux sportifs. Je souhaite un vœu pour cette année 2025. On vous attend évidemment aussi au 32-16 si vous voulez nous donner votre vœu sportif. Il ne devait plus être là, il devait être remplacé, soit par Sergio Conceição ou encore Habib Bey, et pourtant, c'est bien lui qui s'est présenté devant la presse jeudi. Antoine Camboiré est toujours l'entraîneur du FC Nantes, conforté par sa direction avant Noël, après une semaine à faire des appels du pied à d'autres coachs. Antoine Camboiré a eu les fêtes pour digérer cet épisode, mais visiblement ce n'était pas assez. Alors il s'est assis en conférence de presse, face aux médias, devant les micros. Il l'a pris justement le micro. 2 minutes pour les fracasser et il est parti. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Excusez-moi, mais donc, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. J'ai pris une décision aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi. Il faut que vous vous remettez en question aussi, vous les journalistes. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'allez pas être d'accord, mais ça, je m'en fous un peu. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que vous avez été tous unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu'aujourd'hui, je ne serai plus l'entraîneur du FC Nantes. Tous ici dans la salle. J'aurais voulu moi attendre donc de vous soit donc des écrits comme quoi donc on s'est trompé parce que vous êtes complètement planté. Mais il y a eu rien eu, pas de coup de fil, au moins pour s'excuser, au moins pour expliquer. Pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça parce que si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable, je vais même être méchant parce que donc il y a des choses, mais j'ai pas envie d'être là.
Il n'a pas envie d'être là, il est parti et maintenant difficile de savoir s'il va de nouveau s'installer devant la presse. Alors vous le savez, Antoine est un ami, les copains. Je vais donc être obligé de le défendre, je vous le dis tout de suite. Donc faites très attention à vous.
Il t'invitera plus sur les parcours de golf avec lui.
Faites très attention à vous. Antoine Camboiré a-t-il raison d'en vouloir à la presse, oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Non. Julien Beneteau.
Ouais, dans ce cas-là, oui.
Oui. David Douillet.
Je suis assez partagé, mais je dirais non, parce qu'il y a un jeu, quoi, voilà.
Ok, plutôt non. Fred Weiss.
Non.
Non également, il n'y a que un oui. Bah, je vais lui donner la parole et ce sera uniquement lui qui pourra parler durant ce débat. Julien Beneteau, pourquoi oui?
Non, parce que je me mets à sa place. Effectivement, pendant des jours et des semaines, son départ était acté. Tous les journalistes étaient unanimes et donc ça veut dire qu'ils avaient des informations. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que dans toutes les rédactions des journaux, que ce soit sportifs ou non sportifs, mais qui couvrent le FC Nantes, et c'est partout pareil. Il faut sortir l'information. La grosse information avant tout le monde, ou s'il y en a un qui la sort, eh ben ok, on la sort aussi. Mais le mec, il est encore en poste. C'est-à-dire que même si t'as les informations comme quoi Kita va le faire sauter, il est toujours entraîneur du FCNA. Donc, emploie le conditionnel. Emploie, disant, ne dis pas, demain c'est sûr, il sera plus là, il sera plus à la séance. Même si t'as toutes les infos qui te disent le contraire. Par respect pour la personne que tu as traité et pour la fonction, ne sois pas aussi catégorique. Et si finalement, pour diverses raisons, ça ne veut pas dire que leurs informations étaient mauvaises, mais pour diverses raisons, s'il est toujours en poste à la fin, je rejoins complètement Camboiré. Alors pas un coup de fil, etc. Mais un petit truc, on s'est planté. Enfin, désolé, on ne s'est pas planté, on avait les infos, ils ont changé d'avis, on a peut-être été vite en besogne. Pardon, quand tu as une relation, moi j'avais cette relation avec les journalistes quand j'étais joueur. Toutes les semaines, on voyait les mêmes journalistes de l'équipe, parce qu'il n'y avait que l'équipe qui suivait le tennis au quotidien. T'as une relation qui s'installe, une relation de confiance, une relation de ils te demandent des trucs parfois en off, c'est respecté, tu leur donnes, et puis après une mauvaise défaite, ils sont moins virulents, ils essayent de venir comprendre, etc. C'est normal.
Donc ce que t'es en train de nous dire, c'est que à un moment donné, faut pas le lâcher, quoi. C'est non, ça.
Ça va, quoi.
Si on te donne des informations, faut pas lâcher derrière.
Faut pas s'étonner que certains entraîneurs ou etc. disent plus rien, se comportent mal avec des journalistes ou quoi que ce soit.
Mais lui, il a rien dit là. C'est pas lui. En fait, on est venu voir les journalistes parce que s'ils ont l'information, comme tu le dis, c'est qu'ils ont travaillé, c'est qu'ils n'ont pas lancé une information comme ça. Tout le monde est cohérent par rapport à ça. D'accord. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font? Ils relaient une information. C'est un petit peu la base du travail de journaliste. Ils relaient une information qui a été vérifiée, certifiée, et dont ils sont sûrs de la provenance et du fait que ça doit se passer comme ça. Donc ils ne font que leur travail de journaliste, on est d'accord. Donc on peut pas en vouloir à des journalistes de dire les dirigeants ont dit qu'ils allaient se faire virer. On considère qu'il va se faire bien, vu que les dirigeants, c'est eux qui décident.
Tu sais quoi, Fred, je suis totalement d'accord avec toi. Tout de même, dans cette histoire, il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que je me souviens avoir lu la presse durant cette période, le journal L'Équipe et d'autres, et c'est bizarre, mais à ce moment-là, cette phrase m'avait interpellé, tout de même, alors peut-être parce que je suis proche d'Antoine, mais cette phrase m'avait interpellé quand je voyais à chaque fois inscrit « il ne sera plus là dans une semaine ». Et je l'ai lu plusieurs fois cette phrase, et c'est vrai qu'elle m'a interpellé, parce que tu as totalement raison, le travail du journaliste, c'est évidemment que la direction du FC Nantes a laissé fuiter qu'il cherchait un autre entraîneur, et c'est comme ça que les journalistes l'ont su. C'est assez basique. Et les informations étaient bonnes parce qu'ils cherchaient effectivement un autre entraîneur, et puis finalement ils ont pris une autre direction.
Ça n'a pas pu se faire avec les deux entraîneurs.
Mais c'est vrai que sur notre travail, c'est à chaque fois de lire cette phrase m'a posé question. Je savais pas pourquoi à l'époque, mais je me suis dit tiens. C'est bizarre parce que tout le monde écrit que c'est sûr, il sera plus là.
Mais ils avaient ces informations, ça m'a interrogé.
Parce que dans 95% des cas dans les affaires précédentes, c'est ce qui se passait. Quand on dit qu'un entraîneur est sur la sellette, que un autre entraîneur a été vu en train de déjeuner avec le président du club, qu'ils sont en train de se mettre d'accord, dans 95 voire 98% des cas, effectivement, l'entraîneur en place disparaît dans la semaine qui vient. Mais avec les Kitas, c'est toujours un peu particulier quand même. Eux qui ont quand même bouffé un paquet d'entraîneurs depuis le début de leur carrière au FC Nantes.
Ça paraissait convenu, quoi.
C'est la norme du foot qui veut ça. T'as des mauvais résultats qui s'accumulent, t'as un entraîneur qu'on sollicite, tu sais que la plupart du temps, ça se termine par le limogeage de l'entraîneur. Alors là, effectivement, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais en tous les cas, c'est la famille Kita qui a fait fuiter les trucs. Et les journalistes ont vérifié, on leur a confirmé a priori que c'était le cas.
Donc de quoi ils devraient s'excuser? En gros, ils devraient s'excuser d'avoir fait leur travail, d'avoir relayé une information qui a fuité, qui a été vérifiée et qui a été recoupée.
Pour toi, il doit en vouloir, et on va écouter David, mais pour toi, il doit en vouloir plutôt au club.
Il va pas se retourner contre son employeur.
Tu fais rien, tu te bats pas.
David Douillet.
Moi, je trouve que globalement, la réaction d'Antoine, alors je comprends parce que il est dans l'affect et il se sent blessé, il se sent trahi, il se sent seul et il attendait des retours qui n'arrivent pas, mais il est un peu naïf quand même parce que la relation, en tout cas les relations qu'ont des journalistes versus des entraîneurs ou des athlètes, elle est toujours assez ambiguë et compliquée. Et celle ou celui qui pense que un journaliste peut passer du côté de l'ami, du confident, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, eh ben je suis désolé de vous le dire, eh ben elle se trompe. Elle se trompe parce qu'il y a un jeu. Il y a toujours un jeu. Et toi, JC, tu nous dis aujourd'hui que tu es ami avec Antoine parce que tu travailles pas, peut-être pas au quotidien avec lui. Est-ce que
tu
te permets d'être ami avec lui?
Tu as raison.
Parce que si tu étais obligé de travailler avec lui au quotidien, tu ne pourrais pas être ami. Et ce serait même une faute professionnelle de ta part. Et non, c'est pas ça. Tu ne devrais pas être ami parce que tu dois garder une intégrité. Une intégrité et une objectivité. Pour faire ton métier, donc tu ne pourrais pas. Donc la limite, elle est là en fait, entre les interviewés et les intervieweurs, les journalistes et les athlètes ou les entraîneurs. La limite, elle est là, c'est jusqu'où on va dans l'affect pour obtenir de l'info, pour en donner, pour jouer. Parce que c'est facile, hein. Antoine, il a dû jouer aussi, en donnant des bonnes, des fausses infos sur d'autres, etc., etc. C'est un jeu. Vous le savez très bien. Faut arrêter de se raconter la messe. Et donc après, quand ça se retourne un petit peu contre lui, il réagit en disant oh, non, c'est pas juste, etc. Vous êtes tous des salopards, etc. Non, ben non, ça fait des années que tu joues. Ben quelquefois, ça se retourne un peu contre toi. Faut l'accepter. C'est tout. Et c'est ça la réalité de cette affaire-là. Un journaliste ne peut pas être dans l'empathie permanente avec les gens avec lesquels il travaille. Sinon, il peut pas travailler avec. Il peut pas conserver son objectivité. Ou alors, faut qu'il change de sport ou
c'est pas. C'est intéressant ce que nous dit David. C'est vrai.
Quand il y a une relation de confiance qui s'installe aussi, c'est comme ça que les journalistes obtiennent des informations.
Elle est malsaine.
Elle est malsaine.
Jusqu'à un certain point, elle est malsaine. Elle est malsaine.
Ça dépend ce que tu en fais, l'information. Et comment tu la traites.
Non,
et,
ça,
et
comment, ça dépend surtout jusqu'où tu vas comment, dans la relation.
Jusqu'où tu vas.
Là, Julien, ils ont pas. Enfin, les papiers que j'ai lus, j'ai pas tout lu.
Mais c'était pas contre
ils
Antoine.
Ils étaient pas contre Antoine. Non. C'était pas à le consommer en deux. Il répétait une info. Je sais plus à combien il en était de défaites d'affilée et combien de points marqués en deux mois, mais c'était la cata. Les entraîneurs arrivaient, tu fais ton boulot. Tu sors pas l'info, alors que tous les autres médias à côté de toi c'est toi qui te fais virer quand même. À un moment, tu as l'obligation de donner de l'info sur une histoire pareille.
D'accord. Là-dessus, je vous rejoins, mais je rejoins Antoine sur après. Le résultat de cette information, c'est l'inverse que ce qui est sorti par les journalistes.
Mais c'est pas parce que c'est l'inverse que c'était pas une information au moment où ils l'ont donnée. En fait, ça n'a rien à voir. Ils ont donné une information.
Mais tu donnes une information. Mais parce que là, on est dans un domaine où c'est pas très grave. Mais imaginons, on est dans un autre domaine où il y a des conséquences plus graves. Les journalistes ont une information. C'est sûr, demain, BNP va vendre je sais pas quoi, acheter l'action, elle va être à temps. Et puis finalement, dans la nuit, ça s'achète pas. Tout le monde a acheté et le résultat, alors qu'ils avaient la bonne information. Ben, les conséquences sont beaucoup plus graves. Là, je comprends Antoine sur le résultat en disant, bon ben les gars, vous aviez une information, elle était peut-être bonne, mais je suis toujours là.
Mais
c'est bon.
Mais je pense tout de même que Antoine, il est assez intelligent pour savoir que c'est sa direction qui a changé, qui a viré de cap.
Bah oui.
J'en sais pas. Je sais pas comment ça se passe avec l'Equita. Je sais pas comment. Bon. Il savait très bien que Bay avait été et que Contessao avait été et puis que bizarrement Contessao a préféré aller au Milan AC que au FC Nantes. Bon.
Non mais c'est Contessao qui lui-même a parlé de Nantes dans sa première conférence de presse avec l'AC Milan. Donc oui. Ça voulait dire qu'il était en contact tout de
mais
même.
C'est
donc
sûr c'est qu'ils ont changé d'avis. Qu'ils ont été en contact. Mais quel niveau d'information a Comboiré à ce moment-là? De par sa direction. Est-ce que.
Ah bah aucune.
Donc le problème, c'est la direction et pas les journalistes,
aucune.
Encore une fois.
Ok, allez, on va refermer ce débat, les copains. Ce débat qui était passionnant. Et évidemment, on souhaite une très belle deuxième partie de saison.
C'est le meilleur choix pour Nantes.
Ça, mais bien sûr, évidemment, très belle deuxième partie de saison FC Nantes et Antoine Comboiré, évidemment. 10h46, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport.
Moi, je trouve qu'il serait bien aussi aux Grandes Gueules du Sport.
Mais oui,
hein,
bah, il le fait. Oui. On l'accueille avec grand plaisir, notre ami Antoine. Voilà, mais on lui souhaite évidemment.
Ouais, mais bon, s'il nous met à l'amende à chaque fois qu'on critique, on va avoir du mal quand même. Hein.
Mais non, tout va bien.
Tu vois, David, moi je le critique, mais il m'accepte encore un peu. De temps en temps, il a envie de m'en coller, mais bon.
Déjà,
c'est avec plaisir. Tu rigoles.
Une belle vie en tant qu'entraîneur, et puis un jour, s'il veut bien nous rejoindre, il sera le bienvenu. Allez tout de suite, les vœux des GG dans quelques instants. Un vœu sportif. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48 de retour dans les grandes gueules avec Fred Weiss, Julien Beneteau, David Douillet, Christophe Cessieux. À partir de 11h, on vous parle de ce coup de théâtre, de ce transfert avorté de Thomas Hurtel au FC Barcelone. On vous donnera toutes les dernières informations. Mais tout de suite, mes GG, c'est l'heure de vos vœux. Pour cette année 2025, je souhaite un vœu sportif. Je souhaite une chose que vous désirez tant, que vous voulez absolument voir. Dites-moi, quel est votre vœu pour 2025, Christophe.
Ouais, j'en ai plein, toi. Moi j'en ai plein, je suis comme Julien.
Je j'aimerais... sais, alors je dis aux auditeurs, ouais. ils voulaient me parler de 4 ou 5 vœux, je n'en veux pas, je veux pas de pêle-mêle dans cette émission.
Je suis censuré,
veux un vœu.
Et puis, il y a des vœux qui sont complètement irréalisables. Moi je veux dire, un Français vainqueur du Tour de France, bah, évidemment que j'aimerais ça en 2025.
Un vœu réalisable.
Mais voilà, un vœu réalisable. Alors, je me suis concentré sur le rugby avec le tournoi Destination qui débute dans quelques semaines, hein, dans 27 jours très exactement, avec le match face au Pays de Galles. Ça devrait être une formalité pour les Bleus. Ensuite, ça va monter d'un cran. Il y aura l'Angleterre, puis l'Italie, l'Irlande, évidemment, le 8 mars. Ça, ce sera le grand rendez-vous, évidemment, pour l'équipe de France. Si elle parvient avant à battre l'Angleterre, eh bien, elle se dirigera vers le Grand Chelem. Si elle bat l'Irlande, il restera ensuite à battre l'Écosse. Moi, je pense que cette équipe de France peut réaliser le Grand Chelem cette année. Réaliser un Grand Chelem en année impaire, c'est très rare. La dernière fois que les Bleus l'ont fait, c'était en 1997. Mais cette année, et au vu de ce qui s'est passé durant la tournée du mois de novembre, je les pense capables de réaliser ça. Mais mon vœu, alors, outre le fait de gagner le Grand Chelem, ce serait plutôt que, justement, avec ce Grand Chelem dans la poche, Antoine Dupont aille voir son sélectionneur et lui dise « Fabien, on ne peut pas rester comme ça. Nous sommes la meilleure équipe européenne. Aujourd'hui, nous devons aller battre les All Blacks chez eux. Et donc, il faut envoyer l'équipe phare, l'équipe premium, Dupont, avec les Ramos, avec les Aldrit, avec les Bielbiaré, et tout ça pour aller battre les All Blacks chez eux et remporter ainsi une quatrième victoire consécutive face au maître du rugby. Voilà mon vœu, moi. J'ai envie que les Français gagnent et montrent que c'est pas des tocards et que quand ils vont à l'étranger, c'est pour gagner.
Voilà. Et se rebiffent et disent, Fabien, on veut aller.
Voilà. Que ce soit Dupont qui dise à Galtier au fond des yeux, OK, je suis fatigué, Fabien, mais moi, les Blacks, je veux les battre chez eux. Donc j'y vais. Et il n'a jamais été joué un match en Nouvelle-Zélande.
Très bien. C'est un bon vœu, mon cher Christophe. Bon bravo à toi. Très bon vœu pour 2025. Fred Weiss, quel est ton vœu à toi?
Moi, c'est sur un sport mondial. Je voulais parler du basket de Victor Wembanyama. Je voudrais que la France prenne enfin la vague Victor Wembanyama. Le 23 et le 25 janvier, il se passe les NBA Paris Games. Il y aura deux matchs qui feront s'affronter les Spurs de Victor Wembanyama aux Indiana Pacers. Deux matchs fantastiques. Il faut prendre la mesure de ce qu'est Victor Wembanyama.
C'est un petit match de championnat, quoi.
C'est un match de championnat, oui. Un gros match de championnat, mais délocalisé. Un barnum incroyable. La NBA qui se déplace à Paris. Et il y a surtout le All-Star Game qui arrive bientôt. Et Victor Wembanyama est pas si loin d'être titulaire au All-Star Game. Donc j'ai besoin que la France vote en masse pour lui, qu'on puisse avoir un Français titulaire du All-Star Game en NBA. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Victor Wembanyama. J'avais envie de penser à lui. J'avais envie que les Français pensent à lui. Il faut absolument voter pour Victor Wembanyama. On veut Victor Wembanyama au All-Star Game. C'est une évidence, mais titulaire surtout. Et voilà ce qui me fait rêver. C'est ça, le vœu que je veux. C'est qu'on se rende compte que le basket est un sport magnifique, fantastique, incroyable. Que la France a des joueurs incroyables. Et que Victor Wembanyama est cette tête de gondole qu'on cherche depuis des années. Donc, votons en masse pour lui. Déplaçons-nous en masse pour aller le voir au Paris NBA Game.
Si t'as des moyens d'avoir des places, d'ailleurs, tu nous le dis, Fred.
Alors, j'aimerais bien.
Parce que là, c'est très compliqué pour y aller.
Hein.
21 ans aujourd'hui, tu as raison, Victor Wembanyama. 4 janvier 2004, c'est son année de naissance. 21 ans. Joyeux anniversaire, Victor Wembanyama. Et ce vœu, donc, de Fred Weiss. David Douillet, ton vœu.
Moi, je veux que.
Je voudrais être ministre des Sports.
c'est déjà fait, banane. Je n'ai pas dû réchauffer, moi, monsieur Cessieux. Je ne suis pas comme toi. Je rêve que mon pays devienne notre pays, devienne enfin une grande nation de sport à l'échelle du monde. Et c'est peut-être en passe de le devenir, parce qu'il y a l'effet JO qui est là. On a constaté que des fédérations comme le triathlon, l'escrime, le tennis de table, l'athlétisme, etc., le BAD, ont augmenté de 20, 25, 30% le nombre de leurs licenciés. Et ça, c'est très encourageant. Ça veut dire que l'effet JO, il a marqué les esprits. Mais il faut pas que ça. Il faut que tout suive derrière. Donc il faut que les fédérations suivent pour organiser cet afflux de nouveaux personnages dans leur sport. Parce que tout ça, ça va créer des petits Wembanyama, ça va créer des petits Dupont, ça va créer des petits marchands, des petits Rineurs. On a besoin de ça, de locomotives du futur, comme elles existent encore merveilleusement aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que les financements soient au rendez-vous, les financements régaliens, je parle de l'État. Et là, aujourd'hui, force est de constater que dans ce qui s'est passé dans la création des gouvernements successifs, le sport est à nouveau devenu le parent pauvre après les JO, avec des budgets qui sont inadmissibles, où tout se casse la gueule. Il faut parler des infrastructures, on en est où ? Quoi, comment ? Quels sont le nombre d'infrastructures pour accueillir toute cette jeunesse qui a envie de faire du sport, qui est dans cet élan très positif ? Eh ben, il faut qu'on s'y colle tous, il faut qu'on se mette à la tâche, il faut que ce sport devienne structuré et structurant pour que enfin tous nos gamins, eh bien, accèdent à cet immense socle de connaissances que vous connaissez bien, mes chers amis, que ce sont celles des valeurs du sport, pour que des gens arrêtent de se tirer à la calache dans les quartiers plutôt que d'aller jouer au foot ou au basket, justement, pour que des gens arrêtent de dealer ou de voler ou de taper sur la gueule du petit copain plutôt que de se rencontrer sur un tatami ou sur un ring de boxe. Voilà le grand changement que j'espère pour mon pays. Et tout ça, c'est réalisable grâce au sport.
Ça ressemble à un programme politique, hein, tout de même. Hein. Christophe n'était pas loin de la réalité. Bravo, mon cher David.
Votez Douillet.
Votez David Douillet. Julien Beneteau, ton vœu pour 2025.
Alors, des vœux sportifs. J'aime beaucoup le vœu de Christophe. J'en ai deux, mais ça va aller très très vite. J'en ai un premier parce que c'est quelqu'un que je connais, que j'admire, c'est Thomas Coville. J'espère qu'il va battre le trophée Jules Verne. Il est dans l'océan Indien, il est en avance sur Francis Joyon. Et j'espère vraiment qu'avec son bateau et son équipage, ce sera un exploit énorme. Qui soit détenteur du trophée Jules Verne. Et ensuite, en septembre 2025, il va y avoir une des plus grandes compétitions au monde.
Merci, Julien.
Sur le sol américain. C'est la Ryder Cup.
Non, mais on veut la Ryder Cup en France, là.
C'est bon, on l'a déjà eu.
On l'a déjà eu.
Que l'équipe européenne gagne cette Ryder Cup sur le sol américain.
Ce qui est très rare.
Ce qui n'a plus été fait depuis 2012. Et à la fin de la dernière Ryder Cup en 2023, à Rome, quand les Européens ont gagné, en conférence de presse, McIlroy a eu ces mots en disant: le plus grand défi au golf aujourd'hui, c'est d'aller gagner une Ryder Cup sur le sol étranger. Mon plus grand objectif, c'est dans 2 ans d'essayer d'aller gagner chez les Américains. Donc j'aimerais voir ça, et avec pourquoi pas un voir 2 Français dans l'équipe, ce serait la cerise sur le gâteau.
On souhaite évidemment Mathieu Pavon
et Antoine Rosner
ou Victor Pérez.
Exactement.
Mais Mathieu Pavon, aujourd'hui, est en bonne passe d'y accéder, mais il faut faire une belle saison. Ça se passera dans la banlieue de New York. Ça va être très chaud d'ambiance parce que les New Yorkais, au niveau du golf, ils sont extrêmement chauds. Ça va se passer sur le mythique parcours de Bethpage. Exactement, cette Ryder Cup. Merci. Je vote Julien Beneteau pour
Manu Durel. Le pratique.
Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait vraiment étonné.
Bravo, je propose qu'on applaudisse comme ça. Julien, bientôt pour son vœu 2025, qui nous a parlé de golf. Allez, 10h57, on se retrouve dans quelques instants. Le transfert avorté de Thomas Hurtel, cette histoire assez incroyable. On vous explique tout dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.